Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Le bois dont on fait les villes, aux éditions Park Books, est un superbe ouvrage sur la construction en bois, sous la direction éditoriale de Michel Leloup, avec notamment Paul Laigle, co-auteur de ce passionnant ouvrage. Alors, cher Michel, quelques mots. D'abord, vous êtes journaliste, vous êtes directrice de collection, vous êtes un auteur, une autrice, peut-être faut-il le dire aujourd'hui, je ne sais pas, très exigeante sur le plan de la profondeur des sujets traités. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et vous avez écrit notamment, parmi d'autres, des livres d'architecture. J'en cite deux. Auteuil ou l'architecture d'une confidence, il s'agit du village d'Auteuil, et de la halle Fraissinet à la station F, en 2018, quand une gare de marchandises devient le plus grand incubateur de start-up au monde. Ce n'était d'ailleurs pas encore complètement évident quand vous avez écrit l'ouvrage, et c'est une évidence aujourd'hui que tout le monde connaît. Et puis, bonjour Paul Laigle.
Bonjour.
Vous êtes architecte associé de l'agence Leclerc Associé. Vous l'avez rejoint en 2002, il y a une vingtaine d'années, et vous y avez, parmi beaucoup d'autres choses, acquis et développé un savoir-faire spécifique et peut-être une passion sur le bois, avec des réalisations emblématiques très nombreuses. J'en cite trois, le lycée Nelson Mandela à Nantes, le pôle sportif, le stade aquatique et le centre de tir à l'arc de l'INSEP dans le bois de Boulogne, de Vincennes, pardon, dans le bois de Vincennes, et le campus Seine Arboretum à Nanterre actuellement, dont on dira peut-être un mot. Alors, je voudrais vous poser une première question qui est la suivante. Quelles sont les caractéristiques de la filière bois en France sur les plans industriels et organisationnels aujourd'hui?
Alors peut-être juste pour commencer, on parle de filière bois, il y a la filière forêt, il y a la filière bois. Ce sont à la fois deux choses différentes et qui doivent fonctionner ensemble et se coordonner. C'est peut-être d'ailleurs là une grande question qui doit se poser. Donc la forêt, c'est la gestion de la forêt, des arbres, on les coupe, etc. Le bois de construction, c'est ce qui nous intéresse aussi là aujourd'hui dans cette première partie. C'est comment est-ce qu'on va utiliser le bois, cette matière première, la transformer pour la rendre capable, performante et en faire du coup du matériel de construction que nous, architectes, on va pouvoir utiliser, manipuler, déformer pour concevoir des bâtiments. Voilà.
D'accord.
Donc ensuite, la filière bois, à proprement parler, elle est définie aujourd'hui de manière vraiment spécifique, je trouve, par rapport à tout ce qu'elle a vécu pendant ces 20, et peut-être plus précisément ces 10-15 dernières années. Il y a 20 ans, en fait, on faisait pas du tout de la construction bois comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis, particulièrement depuis 10 ans, on a énormément innové, en fait, dans la construction bois. On a innové dans la conception, dans la fabrication d'objets capables, de matière, dans la manière dont on l'a transformé. Et en fait, ça a beaucoup dessiné les contours de la filière bois aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la filière bois qui a innové et qui s'est du coup affirmée, on va dire, ces 10 dernières années? Alors, c'est la filière des grands industriels, parce que la filière bois, c'est à la fois le petit artisan scieur et puis les grands industriels. Alors, c'est aussi d'autres personnes, des bureaux d'études, il y a des architectes aussi, des promoteurs qui croient au bois. Donc, c'est un peu tout ce monde-là qui ensemble, fait quelque chose de très intéressant et qui a énormément porté le bois ces 10 dernières années, qui l'a fait connaître. Parce que une des caractéristiques de la filière bois, c'est qu'en fait, elle communique très mal. Il faut oser le dire, parce que si on n'ose pas le dire, ça ne changera jamais. Et donc, du coup, ils ont su communiquer par l'innovation. Mais peut-être que finalement, ce qu'est la filière bois aujourd'hui, c'est aussi un peu tous les stigmates de ces innovations-là, très spécifiques. Et puis, en fait, on se rend compte que l'écart s'est creusé entre les artisans et les grands industriels et les grands groupes.
Oui, parce que sur la question de la communication, au fond, il y a quelques années, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant, on se disait, le bois, c'est très joli, mais enfin, ça brûle, ça prend l'eau. Ça supporte assez mal le temps, les insectes, les champignons, enfin que sais-je, etc. Ou alors l'idée de barder tout ça de traitements invraisemblables. Bref, on avait l'impression que c'est, au fond, il y avait un peu le mythe des trois petits cochons, là, hein, avec le loup, c'est-à-dire, si j'ose dire, la maison qui résiste, c'est quand même la maison qui est construite en dur, quoi. Et puis ça, c'est pas le cas.
On n'en est pas encore sorti de ça, mais par contre, il y a une autre notion qui est arrivée, ce que j'appelle notre conscience environnementale, et qui fait que aujourd'hui, on a moins envie de vivre dans la maison du troisième petit cochon, celle qui est en dur et en béton, et en fait, on a un peu plus envie de vivre dans celle qui est en paille et qui en fait est peut-être en bois. Et peut-être que le bois, c'est pas si mal en fait. C'est assez solide, et puis ça porte aussi du coup notre conscience environnementale. C'est une conscience collective, donc c'est intéressant. On est moins dans l'individu, donc c'est assez intéressant ce tournant-là.
Michel, quand vous avez décidé cet ouvrage, vous aviez à peu près le sentiment de tout ça, ou est-ce que vous êtes parti un peu plus à l'aveugle ?
Non, on n'est pas parti tout à fait à l'aveugle. D'abord, c'est Cyril Weiner, le photographe dont vous parliez tout à l'heure, qui est vraiment un très grand photographe, mais qui est aussi un éditeur de livres, qui m'avait dit, tu sais, ce serait peut-être bien qu'on s'interroge sur le bois, parce qu'on voit quand même beaucoup de bâtiments, et on va aller voir, ça te dirait de faire un livre, peut-être, avec Leclerc. Ils ont construit, ils ont été promoteurs, vraiment, enfin, j'allais dire, pas promoteurs, mais en tout cas, vraiment, à l'avant-garde, dans les années 2000, des premiers bâtiments en bois. Et quand on s'est réunis autour de la table, j'ai vu tout de suite que François Leclerc et Paul Laigle avaient plein de choses à raconter sur leur propre expérience, c'est-à-dire qu'ils avaient essuyé les plâtres de la filière bois dans les années 2000. Il ne faut pas oublier que le CNTB avait commencé dans les années 90 avec des gens assez brillants, je cite de mémoire Marion Cloarec qui est architecte et qui a formé des bataillons d'architectes, qui a rencontré François Leclerc à cette occasion. Et former aussi des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire de leur dire penser bois, c'est pas penser béton. Donc il faut faire un autre cahier des charges.
Elle était très active, Marion, dans l'association Architecture et Maîtres d'ouvrage.
Tout à fait. Mmh. Et c'est, je veux dire que c'est à partir de là que les choses se sont sensibilisées. Donc on a tout de suite vu à la première réunion avec l'agence Leclerc qu'il y avait une envie de raconter une histoire, ce qu'ils n'avaient jamais fait, c'est-à-dire de démonter chaque projet sur les exigences et la façon dont ils ont travaillé pour travailler avec des matériaux standards et en exiger autre chose. Et puis c'est évident, quand on est journaliste et qu'on tombe là-dedans, on commence à tirer sur la ficelle et on se dit qu'on peut pas parler de bois sans aller faire une enquête de terrain, c'est-à-dire de savoir où en est la filière bois aujourd'hui, qui est la 14e filière stratégique économique. Ça, on le doit à Montebourg, qui a eu, comme j'allais dire, ses prédécesseurs, parce que les politiques publiques en matière de développement de la filière bois ont été importantes depuis Sarkozy, et puis il y a eu Hollande, et puis il y a eu Macron 1. Il y aura sûrement, maintenant on le sait, Macron 2, sur le développement d'une filière, c'est-à-dire ce que disait Paul tout à l'heure, c'est d'arriver à articuler l'amont et l'aval, et de reconstituer des vocations économiques à cette filière, puisque nous avons un savoir-faire séculaire en France. Et il faut avouer qu'il y a 40 ans, on a laissé tomber le bois parce qu'on préférait penser au nucléaire, au TGV, autre chose. Mais en tous les cas, c'est pas ce qu'ont fait nos voisins européens. Donc ils sont restés beaucoup plus pointus sur le sujet. Nous, on a vraiment perdu cette filière. On a perdu énormément de scieries. Il en reste 1500 en France aujourd'hui. Il y en avait, je crois que c'est de mémoire, 150 000 dans les années 60. Donc on a perdu un savoir-faire, et donc il fallait repartir sur une enquête de terrain pour savoir où ça en était. Et ça tombait bien parce qu'il y avait un rapport des comptes qui tombait en 2020 et qui n'était pas tout à fait favorable à la filière bois, puisqu'elle atteignait un niveau record de déficit commercial avec 7 milliards d'euros, soit une hausse de 8% presque par rapport à 2018. Donc c'est vrai que ça nous interrogeait, on voulait vraiment savoir pourquoi ça fonctionnait pas, quoi. Pourquoi la forêt française est si riche, hein, 16 millions d'hectares, est si riche, c'est vrai, en feuillus plus qu'en résineux, mais pourquoi nous ne retrouvons pas, j'allais dire, une capacité à relocaliser sur les régions, sur les départements, un travail agricole, c'est-à-dire de sauvetage écologique au sens du terme, et une exploitation économique du bois.
Alors notre conversation me donne envie de vous poser une question absolument pas prévue. Est-ce que devant cette idée de trouver, de reconstituer le récit de ce qui s'est passé, vous avez vous-même découvert des choses, retrouvé des choses oubliées, etc. Autrement dit, est-ce que ça a été formateur ?
Alors formateur, je ne sais pas, mais en tout cas, de reparler 20 ans après de ces bâtiments, je dirais qu'on s'est rendu compte qu'on a eu quelques intuitions à l'époque. Et en fait, on a réussi à les formaliser, ces intuitions, notamment sur le vieillissement du bois. Déjà, il y a 20 ans, en fait, quand on faisait du bois, on nous laissait faire parce que personne ne savait ce que c'était à part un chalet en Suisse. Donc on faisait ce qu'on voulait et c'est très agréable. Mmh. Et on était plutôt effectivement porté par, on construisait un bâtiment dans un bois, dans un ensemble forestier. On va lui donner du coup une esthétique particulière et on va essayer de faire cohabiter, de créer des connivences entre le bâtiment et l'arbre. Et cette envie de vieillissement maîtrisé du bois, en fait, on ne sait pas ce que ça va donner avant d'y retourner. Et en fait, on y retourne et on voit ce bois qui a vieilli, qui s'est patiné, qui a pris la couleur des troncs d'arbres, qui a joué des orientations et des intempéries. Et c'est très agréable. Mais je dirais que ce dont on s'est rendu compte en revenant sur les lieux du crime, c'est qu'on était quand même bien entouré à l'époque. C'est-à-dire que quand on a envie de bien faire, quand on a une nouvelle matière dans les mains que l'on découvre, on est tellement stimulé qu'en fait on progresse vite et on apprend vite. On a soif d'apprendre, donc on a pu travailler avec notamment avec Dominique Calvi, qui est le père de l'ingénierie bois en France et qui est un type absolument fantastique qui a formé tous les ingénieurs bois aujourd'hui et qui nous a énormément appris sur nos deux premières opérations. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que les bâtiments vieillissent bien aujourd'hui.
Mais alors sur ces 20 années écoulées, aujourd'hui, quel est votre ressenti par rapport à ces expériences, par rapport à ce choix d'une filière bois dans laquelle vous avez été relativement précurseur ?
Au-delà du fait que je dirais que tous nos projets ont été l'objet d'une réflexion particulière, c'est-à-dire que chaque projet est un enchaînement de notre parcours, de notre promenade dans le bois, ça c'est assez intéressant, mais au-delà du matériau, on se rend bien compte effectivement que au fil des ans, le bois est devenu ce que j'appelle un super matériau. Il a fait ses classes et du coup il a fait sa place parmi les vrais matériaux pour construire la ville dense, on va dire, parce que des fois on pense que c'est ça le Graal. Et ça c'est assez intéressant. Donc on arrive au bout de 20 ans, pas juste avec un bois qui vieillit bien, mais avec aussi, on se rend compte que sur ces 20 dernières années, toutes nos opérations, finalement, incarnent parfaitement la filière bois d'aujourd'hui, c'est-à-dire le recours à un bois qui est très performant, normé, un bois qui est du coup l'épicéa, qu'on va aller chercher dans les forêts nordiques parce qu'il pousse bien là-bas, il est plus dense, il y a moins de variations de climat, etc., etc. Et puis avec un matériau et une transformation de ce matériau qui est le CLT. Le CLT, c'est le bois lamellé croisé. Alors, c'est un peu comme le lamellé collé qu'on a tendance à mieux connaître, sauf qu'on croise les fibres du bois. Et du coup, en croisant ces fibres du bois, on obtient un matériau qui est beaucoup plus performant. Donc en fait, on se rend bien compte au bout de ces 20 années de pratique que du coup, on répond parfaitement à ce qu'est devenue la filière bois aujourd'hui. Et on constate en 20 ans que chaque fois qu'on a voulu aller raccourcir la distance entre la forêt, la matière première, et la construction, eh bien, ça, c'est un combat qu'on a très difficilement gagné. On a un peu gagné sur les façades à Nantes, mais c'est très compliqué. Et on se rend bien compte aujourd'hui que tous ces artisans scieurs, en fait, ils ont une ressource incroyable, parce que la forêt française est une ressource incroyable. Alors, les bois et les arbres, ils poussent pas droit. ils poussent pas régulièrement, parce que des fois, il y a des périodes de sécheresse. Mais il y a énormément de choses à faire avec ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a une formation importante de cet artisanat, par exemple, aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, on a un déficit de la formation, de l'apprentissage?
Alors, il y a des organismes de recherche qui sont très pointus. Et qui du coup vont aller communiquer leur savoir sur des écoles qui sont des très bonnes écoles. Donc il n'y a pas de déficit de formation et finalement l'illustration c'est typiquement par exemple il y a un feuillu le hêtre dont on ne sait pas forcément bien quoi faire dans les forêts françaises. Aujourd'hui on fait un lamellé-collé de hêtre qui est extrêmement performant, qui est même d'ailleurs possiblement plus performant sur certaines caractéristiques que le fameux CLT d'Épicéa. Donc non, les formations et le savoir technique est bien présent.
Alors, dernière question, quels sont les caps à franchir maintenant, sur le plan technique, sur le plan financier, voire sur l'accès à la commande, et si j'osais, est-ce qu'il n'y a pas des lobbies qui se mettent de temps en temps en travers de certains matériaux? Je pense à rien de précis, mais il me semble qu'on est peut-être davantage construit dans certains type de matériaux depuis...
De ce côté-là, sur les lobbies, je pense que les lobbies n'ont pas encore compris qu'avant d'arriver à 2050, il va falloir que tout le monde trouve des solutions et qu'on va avoir besoin que tout le monde trouve des solutions.
Bas carbone, etc., par exemple.
Voilà.
Ouais, d'accord.
Donc, en fait, on aura besoin de tous et la ville aura besoin de toute cette diversité. Donc, il n'y aura pas que le bois, j'espère. Et ça, ce serait une très bonne chose. Non, mais vous parliez d'accès à la commande, ouais. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que des savoir-faire, il y en a, de l'intelligence, il y en a, de la matière première, il y en a considérablement. Par contre, c'est pas la même chose d'innover quand on est un groupe industriel, qu'on s'adosse à des fonds, que quand on est un petit artisan. Donc, si on veut développer un produit local, aller chercher du bois local, c'est quand même beaucoup plus difficile de mettre de l'argent pour avancer. Donc ça, c'est un gros frein. Et ensuite...
Les investisseurs,
bien sûr.
Et les financeurs.
Oui. Mm-hmm. Et ensuite, oui, parce que la légifération, aujourd'hui, elle est calée sur les innovations des grands groupes. Donc, il s'est creusé un écart qui est pas facile à rattraper pour les petits artisans. Et ensuite, les petits artisans, ils savent pas répondre à un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est pas juste avoir l'intelligence de l'écarissage, mettre un chiffre devant et puis rendre un tableau Excel. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça, ils ne savent pas du tout faire.
Et justement, je veux juste rebondir sur ce que dit Paul. Tu m'avais expliqué, c'est écrit dans le livre, quand vous êtes à Nantes et que vous construisez le lycée Nelson Mandela, vous avez une véritable envie d'utiliser du bois local et vous vous dites, tiens, pourquoi pas le chêne? Et vous aviez cette envie de bâtir avec du bois local et de vous adresser à des scieurs qui étaient capables et transformeurs capables de vous fournir. Bon, ça n'a pas été le chêne, il n'y en avait pas assez pour la quantité nécessaire du bâtiment qui est assez important et qui est très très beau. Mais vous vous êtes aperçu aussi qu'en voulant donner une chance à ce groupement de scieurs, ils ne savaient pas faire un appel d'offres, ils ne savaient pas y répondre. Et Dieu sait si vous avez essayé de leur tendre la main pour le faire de façon à diversifier. Je crois que c'est ça
et
l'histoire.
Et pourtant, le bois local, on était prêt à faire quelques kilomètres. Hein, parce que bon, il n'y avait pas que le chêne, mais effectivement, oui, c'est un fait. Une entreprise qui répond fait ce qu'on appelle un prix marketing. Or là, ces scieurs, cette confédération des scieurs, savaient faire le vrai prix, mais c'est pas le vrai prix qu'on attend dans une consultation. C'est le prix qui va nous faire gagner, ce qui est très différent.
C'est un bel exemple de ce monde dans lequel on est entré, dans lequel, bien sûr, il faut des spécialisations, bien sûr, il faut des grands professionnels, bien sûr, il faut des technicités, mais il faut surtout savoir casser les silos et ne pas se dire tel ou tel sujet, c'est pas mon problème, c'est pas mon métier, etc. On est rentré aujourd'hui, je crois, dans un process qui est beaucoup plus celui du vivant, finalement, dans lequel il n'y a pas la séparation entre tel et tel type d'activité, mais où tout interfère dans tout et réciproquement, comme disait Pierre Dac, mon maître. Le bois dont on fait les villes, aux éditions Park Books. Je voudrais dire que ce n'est pas seulement un ouvrage magnifiquement documenté, c'est aussi un ouvrage poétique. Et ceci grâce au talent du photographe, particulièrement inspiré, Cyril Weiner. Photographe que nous retrouvons dans Aime le Monde, par exemple, dans Art Press, dans l'Architecture Aujourd'hui et dans quelques autres très grandes revues, dans Domus, etc. Merci Michel.
Je voudrais
merci
juste
Paul.
Ajouter, ouais. Parce qu'il faut lui rendre hommage, oui. Quelqu'un de très discret, très talentueux, qui est Jacques Dussen et qui très est graphiste. Et qui avait déjà son idée sur la forme que ce livre allait prendre, de façon à ce que les statistiques ne soient pas redoutables, de redoutables camemberts. Il a un pouvoir d'invention, de création qui est très fertile. Voilà. Merci à lui et merci à Cyril.
Merci de le signaler. Et la meilleure façon de le vérifier, c'est de d'acheter le livre et de le lire. Merci.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.